Marion Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Depuis le coup d'État manqué de juillet 2016, la Turquie vit sous haute surveillance. L'AKP et son chef historique, le président Erdogan, maintiennent la société sous l'étain noir et plus une tête ne doit dépasser des rangs. Écrivains, journalistes, hommes politiques, responsables d'associations, leaders religieux, tous ceux qui ne sont pas derrière lui sont présumés être contre lui. Ce qui fait dire au chercheur Hamid Bozarslan que la Turquie ressemble beaucoup à l'Iran et à la Russie, un pays qui présente le visage de la démocratie, mais le visage seulement. Hamid Bozarslan est l'invité d'Orient Hebdo ce dimanche. Un nouveau numéro que vous pourrez réécouter sur notre site www.rfi.fr ou podcaster sur notre appli Pure Radio. Bonjour Hamid Bozarslan.
Bonjour Éric Bataillon.
Directeur d'études au Centre de Recherche Setobac de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales à Paris. Vous êtes spécialiste de la sociologie politique et historique du Moyen-Orient et en particulier de la Turquie. Alors vous avez participé il y a quelques semaines à un colloque organisé par l'universitaire franco-turc Nora Cheni. Hamid Bozarslan, à propos de la Turquie mais aussi de l'Iran et de la Russie, vous avez parlé d'antidémocratie. Que voulez-vous dire par là ?
C'est un concept que je propose provisoirement parce que on ne sait pas comment définir certains régimes autoritaires qui ont émergé au début du XXIe siècle. On utilise le terme d'autoritarisme compétitif, on utilise le terme d'autoritarisme musclé, alors que quand on regarde ces régimes-là, notamment en Turquie, en Russie et en Iran, on est en face des régimes qui préservent les structures formelles d'une démocratie, mais en même temps qui se considèrent comme des alternatives radicales, nationales, viriles, contre les démocraties libérale.
Mais anti, ça veut dire que l'on est opposé.
On est opposé parce qu'effectivement, on considère que la démocratie libérale, c'est une forme corrompue de l'existence sociale, que les démocraties sont dégénérées. Les trois régimes insistent beaucoup sur la virilité. Eux estiment qu'ils ont préservé leur propre virilité. L'ordre doit régner. Le rapport entre l'État et l'Église ou la religion est mentionné d'une manière très musclée. Le rejet de l'idée de sujet, que l'individu puisse être sujet. L'idée de la société collective est organique, la société doit être organiquement pensée, il doit y avoir une fusion charnelle entre le leader et la nation étant la seule source de légitimité, et c'est le leader qui l'incarne à la fois dans son présent, mais aussi dans son passé et dans son avenir, et l'histoire est lue non pas comme une histoire, disons, en devenir, mais comme une histoire de vengeance, de revanche sur le passé.
Alors justement, pour ces pays, nous rappelez-vous, la nation a une mission historique qui est d'apporter la civilisation au reste du monde et aussi de protéger et de développer la religion universelle. Mais de quelle civilisation et de quelle religion parlons-nous pour ces trois pays ?
Dans les trois cas, effectivement, on insiste sur le fait que la nation a reçu de la part de l'histoire une mission. Cette mission consiste à civiliser le monde dans le sens de lui apporter l'idée de la justice, l'idée de l'administration, de dominer le monde pour lui apporter l'harmonie. Et donc, du coup, effectivement, cette mission ne peut pas être partagée. Ce n'est pas une mission universelle, c'est une mission incarnée. Cela est très clair dans le discours de Poutine. Cela est très clair aussi dans le discours de Khamenei, le guide suprême de la révolution iranienne et donc, de fait, le chef d'État. Et cela est très clairement le cas d'Erdogan. Et protéger la religion, à vrai dire, aller beaucoup plus loin que la protection de la religion, être le bras armé de la religion. Cela est l'orthodoxie, bien entendu, dans le cas de Poutine. Cela est le chiisme de plus en plus prononcé dans le cas de l'Iran. Et c'est le sunnisme dans le cas de la Turquie.
Alors, vous regroupez ces trois pays, vous les comparez, mais finalement, ils se ressemblent, ces trois pays, mais aussi, ils sont en concurrence, quelque part, aussi bien sur le plan de la civilisation que des religions.
Absolument. Ils sont en concurrence parce que on sait que les démocraties peuvent être en concurrence, mais les démocraties ne se font pas la guerre, alors qu'on sait des expériences historiques que les régimes totalitaires, les régimes autoritaires peuvent se rassembler, mais en même temps se trouver aussi en situation de guerre. Et dans les trois cas, effectivement, on a à la fois des complicités, énormément de complicités. On a vu cela dans le dossier iranien. On le voit, par exemple, dans une certaine opposition contre l'Occident, parce que pour les trois, l'Occident est à la fois une menace et un modèle corrompu. Et de l'autre côté, ce sont les trois régimes aussi qui sont dans une lutte hégémonique à la fois au Moyen-Orient, dans leur rapport. N'oublions pas que la BSI disait que les méchants entre eux peuvent devenir des complices, mais jamais des amis.
Alors justement, s'ils ne deviennent pas des amis, ils peuvent devenir un jour, et peut-être un jour prochain, des ennemis. C'est inquiétant.
Voilà, cela a été déjà le cas. Je veux dire, quand on regarde aujourd'hui, quand on regarde au début des années 2010, la Turquie et l'Iran étaient pratiquement en guerre sur le dossier syrien. N'oublions pas que la Turquie a abattu un avion russe en novembre 2015, donc les rapports étaient extrêmement tendus. Aujourd'hui, il y a une complicité sur le dossier syrien, mais cela peut ne pas être éternel.
Alors, dans ces trois pays, vous parlez de revanche. De quelle revanche s'agit-il ?
Revanche parce que, pour les trois régimes, la mission historique a été entravée parce qu'il y avait l'Occident, mais a été entravée aussi parce qu'il y avait les ennemis de l'intérieur, et surtout une élite corrompue. Et donc, du coup, aujourd'hui, il faut restituer la nation, reconstruire la nation dans sa pureté ontologique des origines. Et pour cela, il faudrait supprimer la phase de l'occidentalisation. On est impressionné de voir que la Russie, qui est quand même un pays européen, ne se considère pas nécessairement comme faisant partie de l'Occident.
Et oui, revanche, il est de plus en plus tourné vers la Chine.
Voilà, vers la Chine. Et revanche historique aussi, parce que pour Poutine, le siège de Moscou n'est pas terminé. Le siège de Moscou, 1612, l'occupation polonaise. Pour Khamenei, il est très clair qu'il est le temps de prendre la revanche de la Qadisiyya 636, qui était la défaite persane contre les Arabes. Et pour la Turquie, la Première Guerre mondiale, qui n'avait pas d'autre objectif que de détruire la Turquie, n'est pas terminée. Les batailles décisives auront encore lieu. Et donc, du coup, l'avenir est pensé comme ce laps de temps où on va prendre revanche sur le passé et restaurer non seulement la grandeur, la puissance, mais comme condition de cette puissance, comme condition d'une nouvelle mission historique, la pureté ontologique de la nation.
Alors, justement, ces trois États paraissent partager la même vision. Est-ce que dans ce cadre-là, les institutions de ces pays sont menacées, et de quelle façon ?
Les institutions sont totalement vidées de leur sens. Effectivement, il y a une cour constitutionnelle, mais on sait combien la cour constitutionnelle est devenue aujourd'hui instrumentalisée par les trois régimes. Il y a un parlement, mais les parlements sont devenus des chambres d'enregistrement. La légitimité est incarnée par le chef in fine. Et la destruction des institutions est très très claire. Quand bien même elle serait préservée formellement, ce qui est extrêmement inquiétant par contre lorsque vous détruisez les institutions qui ont pour mission de produire des mécanismes d'équilibre et de contrôle, vous les remplacez par d'autres institutions. Ce sont des institutions informelles. On voit dans les trois cas une cartélisation du pouvoir. Le nombre de pôles de pouvoir ouverts aux clandestins se multiplie. Les trois États connaissent quand même un processus de paramilitarisation. L'État devient paramilitaire.
Alors nous reviendrons sur ce point précisément, Hamid Bozarslan, mais concernant la Turquie précisément, quelle est la composition de l'ensemble politique qui est au pouvoir, un ensemble que vous qualifiez de bloc hégémonique ?
Voilà, un bloc hégémonique parce qu'effectivement il y a une bourgeoisie puritaine qu'on considérait comme puritaine qui a émergé dans les années 80-90. À la faveur de l'ouverture économique de la Turquie, qui est aujourd'hui infiniment moins puritaine et qui est finalement une bourgeoisie de rente, hein, parce qu'elle ne se nourrit que de la construction. De l'autre côté, vous avez des classes moyennes en Turquie, surtout turco-sunnites, hein, qui considèrent effectivement que leur histoire a été une histoire humiliante et aujourd'hui sont en quête, hein, de grandeur. Vous avez les catégories pauvres, hein, les plus pauvres de la Turquie, à qui on explique que la pauvreté n'est pas du tout une question politique, ni même sociale, mais uniquement une question de charité et qu'on essaye de porter à bout de bras en quelque sorte par les actes de charité. Donc tous ces acteurs-là constituent effectivement un bloc hégémonique qui permet à l'AKP d'avoir l'appui des catégories et très favorisées et très défavorisées.
Oui, vous dites une bourgeoisie puritaine et corrompue.
Puritaine, de moins en moins puritaine, est corrompue parce qu'effectivement là, on a énormément de dossiers désormais, on sait combien le pouvoir lui-même a été corrompu, la famille d'Erdogan a été corrompue. Donc effectivement, cette bourgeoisie, il y a encore 25-30 ans, pouvait se présenter comme une bourgeoisie montante, mais en même temps, une bourgeoisie réprimée par la bourgeoisie d'Istanbul, par le système capitaliste international. Aujourd'hui, cette bourgeoisie est totalement intégrée dans tout cela, mais cette bourgeoisie n'est pas du tout une bourgeoisie, par exemple, de production. C'est une bourgeoisie qui a rompu ses liens avec l'industrie qui est devenue vraiment purement rentière et qui se nourrit finalement que des fonds, des centaines de milliards de dollars que l'État central transfère à ses entreprises.
Vous
Vous écoutez Orient Hebdo sur RFI et nous sommes en compagnie de l'historien et politologue Hamid Bozarslan, spécialiste du Moyen-Orient et en particulier de la Turquie. Hamid Bozarslan, l'économie turque est-elle mise en coupe réglée et utilisée pour construire un nouveau système politique en Turquie ?
Cette économie, de toute façon, effectivement, depuis une bonne dizaine d'années, a été utilisée pour promouvoir la Turquie, pour transformer la Turquie en l'une des 10 puissances majeures de la planète. C'est l'objectif de Erdogan. Mais aujourd'hui, on voit qu'effectivement, cette économie se trouve au bord de la faillite. Le fait de tout investir dans la construction et de ne pas penser à la production, de ne pas penser effectivement à une économie d'autosuffisance, ne serait-ce qu'en termes alimentaires, a produit des effets considérables. L'économie a été utilisée effectivement comme un domaine pratiquement privé d'Erdogan et de sa famille. N'oublions pas que sa famille est très très impliquée également dans le domaine économique. Son gendre, qui est aussi son ministre, est très impliqué dans le domaine de l'énergie. Donc on a l'impression qu'il y a eu une politique absolument suicidaire dans le domaine économique qui explique aujourd'hui l'effondrement.
Pourtant, il y a tout un tissu industriel, notamment des PME extrêmement nombreuses et extrêmement inventives en Turquie.
Ce secteur a été totalement abandonné. Ce secteur existe encore. Je pense qu'effectivement, au niveau local, c'est ce secteur qui porte l'économie turque. Mais quand on regarde la donne Macron, en quelque sorte, ce qui a été privilégié à la fois à l'échelle locale, mais aussi à l'échelle, disons, du pays d'une manière générale, c'était des entreprises de construction. Il y a plus de constructeurs en Turquie aujourd'hui que dans la totalité de l'Union européenne.
La situation de l'économie turque aujourd'hui est très difficile, très délicate. On dit aussi en Turquie que c'est un effet venu de l'extérieur. Est-ce que l'on peut croire à cette version de l'extérieur pesant sur l'économie turque pour la faire chuter ?
Les économistes sérieux, aussi bien de gauche que de droite, aussi bien de Turquie que de l'étranger, explique depuis quelques 5 ans que l'économie turque est extrêmement fragile, qu'il faut une réorientation absolument radicale. Et là, depuis 2013-2014, donc la situation qui se présente aujourd'hui était déjà annoncée, déjà comprise, déjà analysée par les économistes sérieux. Donc on ne peut pas du tout expliquer l'effondrement de la livre turque ou le taux d'inflation qui est désormais frôle les 25%. Ou le taux d'intérêt qui frôle les 25% par une intervention extérieure. Mais en Turquie, l'un des grands sociologues turcs disait que en Turquie, la théorie du complot tenait lieu de la philosophie nationale du pays. Chaque fois qu'il y a effectivement une crise en interne ou en externe, l'explication la plus simple, c'est effectivement l'Occident qui ne veut pas voir la Turquie propulsée au devant de la scène.
Alors revenons sur la question politique, Hamid Bozarslan. Vous disiez tout à l'heure que il y avait une paramilitarisation rampante en Turquie. De quelle façon se manifeste-t-elle, cette paramilitarisation ?
Cette paramilitarisation s'explique en premier lieu par la construction de nouvelles forces au sein de la gendarmerie et de la police qui sont totalement autonomes et qui dépendent directement du président. Cette paramilitarisation s'explique par le fait qu'il y a des entreprises privées plus ou moins nationalistes ou islamistes de sécurité qui sont directement intégrés dans les structures étatiques. Cette paramilitarisation s'explique aussi par le recours aux djihadistes en Syrie, notamment ce qu'on appelle aujourd'hui l'armée syrienne libre, qui n'a rien à voir avec l'armée syrienne libre de 2011, est totalement inféodée à la Turquie, et on sait que cette force est composée de plusieurs dizaines de groupes djihadistes qui sont en guerre pour le butin de guerre.
Est-ce qu'il y a une opposition dans la communauté turco-sunnite dont vous parliez tout à l'heure?
Je pense que dans cette communauté, il y a quand même une opposition parce qu'il y a un courant qui est encore extrêmement minoritaire mais qui ne se retrouve plus du tout dans l'AKP, parce que l'AKP, effectivement, il y a 16-17 ans, avait promis une Turquie à la fois conservatrice mais aussi démocrate, une Turquie à la fois économiquement prospère mais qui combattrait et les injustices et la corruption. Aujourd'hui, l'image est tout à fait différente. Donc, au sein de cette communauté turco-sunnite, il y a malgré tout une opposition. Mais cette opposition est encore très très marginale. On a l'impression que l'AKP et ses alliés de l'extrême droite disposent encore de 52-53% de vote.
Dans ces conditions, est-ce qu'il y a malgré tout une certaine résistance qui s'organise en Turquie, et de la part de qui et surtout avec quels moyens ?
Il y a énormément de résistance. Je suis vraiment admiratif de voir ne serait-ce que mes collègues en Turquie, les journalistes, parce que 85% des journaux aujourd'hui sont détenus par l'AKP, mais il y a des journaux Internet qui sont extrêmement courageux. Les gens s'exposent. Au sein de la jeunesse, il y a quand même une résistance. Et les élections municipales de 31 mars 2019 ont montré que cette résistance pouvait aussi prendre la forme de compétition électorale. Le parti kurde au Kurdistan a obtenu quand même des scores extrêmement élevés, malgré une politique répressive qui dure depuis très longtemps. À Istanbul même, je crois qu'effectivement les résultats ont montré que voilà, la voie plébiscitaire telle que l'AKP prévoit pour les élections n'est pas toujours le cas.
Alors justement, puisque vous parlez de l'élection municipale du 31 mars, le politologue et universitaire turc Ahmet İnsel rappelle que l'électeur turc est très attaché aux résultats des scrutins auxquels il participe. Or, le président Erdogan a pris un risque, semble-t-il, en contestant et en faisant annuler le résultat de l'élection municipale à Istanbul, élection qu'il avait d'ailleurs lui-même totalement verrouillée. Est-ce que c'est un gros risque politique qu'il prend là ?
C'est un gros risque politique, d'abord en termes de légitimité. Parce que l'idée qu'on a volé notre vote, qu'on a volé les élections, ça lui a apporté quand même un coup assez important, y compris au sein de l'électorat. C'est un coup politique parce que cela signifie que la situation économique va s'empirer encore pendant une quarantaine de jours, parce que les nouvelles élections seront organisées le 23 juin. Cela peut aussi susciter énormément de réactions au sein de l'électorat de l'AKP qui reste encore loyal au parti, qui votait par fidélité au chef, qui peut ne pas accepter effectivement ce rythme électoral, parce que n'oublions pas qu'il y a pratiquement une élection ou deux par an en Turquie.
Alors Vladimir Poutine dit qu'il n'y a pas de Russie sans Poutine. Est-ce que Erdogan dit la même chose à bord de la Turquie ?
Erdogan le dit très clairement. Erdogan le dit très clairement parce qu'effectivement Erdogan estime qu'il ne représente pas seulement le présent de la nation comme n'importe quel président démocratiquement élu, mais qu'il présente aussi le passé de la nation. Autrement dit, la nation n'aurait pas de passé sans Erdogan lui-même, un passé millénaire de mission historique, et surtout l'avenir de la Turquie, parce que pour Erdogan, effectivement, il est le seul garant de l'existence de la nation turque, de sa grandeur et de sa mission historique qui serait de nouveau de devenir une grande puissance.
Alors nous parlions tout à l'heure de la résistance intérieure. Quel est le rôle de la diaspora turque, notamment en Europe ?
La diaspora aujourd'hui est très encadrée par le gouvernement turc. Et là, on le sait, à travers les mosquées, le réseau des mosquées, à travers l'enseignement de la langue et de culture d'origine, à travers les consulats et les ambassades. Et là, cela inquiète énormément le gouvernement démocratique, comme en Allemagne ou en France. Et de l'autre côté, il y a quand même aussi une opposition. Cette opposition est l'opposition de la diaspora kurde. C'est aussi l'opposition de la diaspora alévi. La diaspora alévi, donc effectivement, cette communauté confessionnelle qui est très marginalisée en Turquie et qui est tout à fait exclue du système. Et finalement, il y a aussi une diaspora intellectuelle. La répression d'Erdogan au cours des 5 dernières années a de nouveau poussé énormément d'intellectuels à quitter la Turquie, qui constitue aujourd'hui une diaspora type inédite.
Un mot de la position de l'Union européenne et de l'Europe au sens large, et même des pays de l'Ouest en quelque sorte, vis-à-vis de la Turquie. Vous parlez de lâcheté des démocraties occidentales, que
voilà.
Vous voulez dire ?
Effectivement, l'impression que à plusieurs reprises dans l'histoire, d'ailleurs, cela n'est pas la première fois qu'on l'observe, les démocraties peuvent capituler devant les antidémocraties pour pouvoir effectivement avoir un peu de sécurité et de ne pas gérer des problèmes, des tensions que les antidémocraties leur imposent. Et donc, du coup, je crois que concernant la Turquie, il est très clair aujourd'hui qu'il y a beaucoup de condamnations verbales, mais il n'y a absolument aucune prise de décision concernant la Turquie. Il n'y a pas de politique européenne en la matière. Et au-delà des condamnations verbales, on accepte finalement que la Turquie est dirigée par un régime certes détestable, mais qui malgré tout voilà maintient une certaine stabilité. Quand on voit effectivement la position que le gouvernement européen a adoptée par rapport aux journalistes qui sont en prison, par rapport aux politiciens, des milliers de politiciens qui sont en prison, et des intellectuels qui sont désormais en prison, des professeurs d'université, on a vraiment l'impression que, bon, effectivement, on a accepté le fait que la Turquie sera antidémocratique, il n'y a rien à faire, et donc, du coup, on baisse les bras.
Merci, Hamid Bozarslan.
Merci à vous, Éric Bataillon.
Vient de paraître aux éditions du CNRS « Crise, violence, décivilisation », trois notions qui ont une dimension universelle, mais qui constituent aussi les trois angles morts de l'histoire du monde, trois notions que vous examinez à la loupe dans ce livre, Hamid Bozarslan. Orient Hebdo, mise en onde et réalisation Mathias Golshani. On se retrouve avec plaisir samedi prochain. Et juste avant le journal, on écoute un extrait de Kiss Kiss, le succès de la méga star de la chanson turque, Tarkan, qui s'est mobilisé la semaine dernière dans le quartier de Kadıköy contre l'annulation de l'élection municipale à Istanbul.
Sen Cihana, elini